utilise très souvent, parce que ça fait 20 ans aujourd'hui que c'est le nom que l'on emploie. On a tendance à dire grotte Chauvet, Chauvet aussi, tout simplement. Mais voilà, c'est sous cette détermination-là que ça a été acté pour l'UNESCO, grotte ornée du Pont d'Arc, dite grotte Chauvet. Et la réplique, la restitution, se dénomme caverne du Pont d'Arc. Donc grotte, c'est l'original, caverne, c'est la réplique. Donc j'essaye de me contraindre à utiliser justement cette différenciation lors de mon exposé. Au moins vous comprendrez lorsqu'on parle concrètement de soit de la caverne, la réplique, la restitution, soit de la grotte, l'original. Donc on m'a demandé de justement situer l'importance de cette grotte et de cette découverte qui date du 18 décembre 1994 au sein du contexte particulier qu'est l'art préhistorique du paléolithique, l'art des cavernes. Alors, je ne sais pas quel est... On éteint la qualité du PowerPoint est meilleure lorsqu'on éteint. Voilà, je vous remercie. Quelle est la connaissance que vous avez sur déjà ce grand terme qu'est préhistoire, hein, parce que c'est finalement à la fois une période, mais c'est aussi une discipline, une science qui n'est pas très ancienne finalement, hein, contrairement à la médecine qu'on étudie et que, sur laquelle on travaille depuis le Moyen-Âge. Évidemment, la préhistoire, c'est quelque chose qui est une notion très récente finalement, ça doit faire à peu près 200 ans qu'on réfléchit dessus, qu'on a inventé à la fois le terme et la discipline, et surtout depuis, finalement, encore plus récemment, depuis 1950, où on a concrètement des analyses physiques directes, par exemple avec le carbone 14, qui nous permet d'avoir des datations absolues sur l'art préhistorique, en fait, hein. Donc vous voyez que c'est assez récent, finalement, comme discipline. Donc tout ça pour revenir sur la définition de la préhistoire, puisque c'est quand même un peu le sujet. On a souvent des idées complètement erronées. Hein, on a tous acheté à nos enfants, petits-enfants, des livres, ou pour soi-même aussi évidemment, hein, des ouvrages qui mentionnent les animaux de la préhistoire et qui finalement nous détaillent ce que l'on sait des dinosaures. Qui est une erreur, puisque les dinosaures, ils ont plutôt vécu entre 220 millions d'années et 65 millions d'années, et considérant que la préhistoire, par convention, elle commence avec l'émergence de l'homme, et on va prendre une grande date, hein, pour ne pas rentrer dans des détails de spécialistes, mais on va dire que c'est aux alentours de 5 millions d'années, on va dire, hein, les préhumains. Et que cette préhistoire va se terminer au moment où les hommes inventent l'écriture, hein, où ils vont pouvoir écrire leur histoire, et que ça se situe conventionnellement, j'insiste bien aussi, tout ceci est de l'ordre de la convention, il y a moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, on va se situer dans cet espace-temps qui est énorme, hein. Mais lorsqu'on parle de l'art préhistorique et de l'art des cavernes, on va se situer durant ce qu'on appelle la préhistoire, le paléolithique. Ça évoque en général de lointains souvenirs, puisque pour nos âges, on va dire, c'est des choses qui ont été abordées à l'école primaire, en CE2, ou alors à l'université, si vous avez fait vraiment des études un peu spécialisées. C'est pour ça aussi qu'on a énormément d'idées reçues et d'idées fausses sur ce sujet-là. Donc le paléolithique, c'est lithos, en grec, hein, c'est pierre, voilà. Et paléo, c'est ancien, donc c'est l'âge de la pierre ancienne. Et c'est seulement au paléolithique supérieur, donc dans cette période qui va s'étendre de 40 000 à 10 000 ans, qu'on va spécifiquement avoir de l'art préhistorique, l'art des cavernes. Lorsqu'on parle plus spécialement de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, on va se situer dans un contexte qui est encore plus précis, puisque les datations des peintures nous ont donné comme représentation la civilisation des Aurignaciens. Alors ça, c'est un terme qui est peu connu pour l'instant, qui le devient de plus en plus avec la notoriété que prend la grotte Chauvet, avec l'ouverture aussi d'un site qui permet de le visiter, évidemment. Et les Aurignaciens, c'est simplement la civilisation des artistes qui ont dessiné dans la grotte Chauvet. En général, on connaît beaucoup plus les Magdaléniens, hein, parce que l'art des cavernes est la plupart du temps beaucoup plus représenté dans cette civilisation-là, et ça nous renvoie à une autre région qui est très riche en art magdalénien, qui est le Périgord, la Dordogne. Or là, on est en Ardèche, si j'ai besoin de le préciser. Alors, ce terme, il est tout simplement issu d'un site éponyme, c'est-à-dire un site qui a donné son nom à cette civilisation et qui a été fouillé, vous voyez, il y a quand même quelques temps, en 1860, par Édouard Larté, qui était un précurseur préhistorien et qui a fouillé dans cette grotte-abri d'Aurignac, en Haute-Garonne. Donc, le Magdalénien, c'est la grotte, de l'abri de la Madeleine, en Dordogne. Le Solutréen, voilà, là on est un peu plus dans vos territoires, donc voilà, c'est des références que vous avez certainement et que vous connaissez. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont ces Aurignaciens qui sont les inventeurs de l'art préhistorique, les plus anciennes traces d'art figuratif, hein, parce qu'on peut toujours faire deux traits parallèles sur un support quelconque, mais de l'art figuratif où on va avoir des dessins d'animaux, ça, c'est vraiment quelque chose qui émane de ces peuples aurignaciens. Ils ont une aire d'extension qui est assez large. Vous le voyez, c'est ce qui équivaut aujourd'hui à ce qu'on appellerait au niveau géographique l'Eurasie. Et ce qui est intéressant de voir tout de suite, sans aller forcément plus dans le détail, c'est qu'il y a 40 000 ans, ces aurignaciens, ils ont un socle commun culturel. Tous, ils ont la même culture. Mais on va déceler, en fonction des objets que l'on retrouve dans chacun des sites et de ces régions, des petites traditions différentes. Exactement comme aujourd'hui, un bourguignon n'a pas tout à fait la même tradition qu'un corse ou qu'un breton. Donc déjà, cette caractéristique-là, on la décèle il y a 40 000 ans chez ces Aurignaciens qui sont donc les premiers à nous avoir laissé des traces d'art à la préhistoire. Donc l'idée, c'est de montrer un petit peu ce que représente cet art des cavernes. Tout de suite, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une répartition différentielle en fonction du type d'art qu'on a retrouvé datant de la préhistoire, parce qu'on a deux formes bien distinctes qui sont l'art pariétal et l'art mobilier. Donc là, leur nom indique que l'art pariétal, c'est l'art qui est fait sur des parois, et l'art mobilier, l'art sur des supports beaucoup plus petits du coup, et qui va être transportable, qui va être dans la vie quotidienne de ces hommes. Et on a une répartition différentielle, ça vous allez très vite le déduire, tout simplement parce que qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'art pariétal ? Des parois. Et pour avoir des parois, il faut des grottes. Et pour avoir des grottes, il faut avoir des massifs géologiques liés au calcaire. Hein. Donc on ne va pas avoir des grottes, des massifs karstiques, hein, c'est un terme qu'on utilise aussi, n'importe où. Donc là où il y aura des grottes, on va avoir de l'art pariétal. Et quand ça n'aura pas, eh bien ils auront fait à profusion de l'art mobilier. Et là, en grande quantité, ça va être des parures, des sculptures, des petites sculptures soit féminines ou animales en rond de bosse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va aujourd'hui dénombrer 300 sites ornés sur cet art du paléolithique, partout sur l'Europe. Hein. 300 sites ornés, donc ça veut dire des dessins, des peintures, des gravures. La moitié sont en France, on ne le sait pas, hein. Mais il y a une forte concentration en France. C'est aussi pour ça que cette science et cette discipline, elle est née en France. Hein, il y a des choses qui s'expliquent comme ça. Parce qu'on avait un riche patrimoine préhistorique et qu'on avait quand même un peu les acquis de cet intérêt tout à fait particulier qu'on avait, issu du siècle des Lumières, pour les sciences naturelles aussi. Et on a beaucoup travaillé sur ces domaines-là au début du 19e siècle, où la préhistoire commençait à naître. Donc à peu près 150 sites en France, et ce qu'on sait encore moins, c'est que les gorges de l'Ardèche, est-ce que tout le monde se situe, Vallon-Pont-d'Arc ici, Saint-Martin-d'Ardèche, on est de l'autre côté des gorges, hein, là vous avez le Rhône, c'est pour cela qu'on appelle ça le foyer d'art rhodanien, par rapport à l'axe du Rhône. Eh bien, on a ces gorges de l'Ardèche, 35 km de gorges. On a les gorges du Gardon aussi, qui sont hors champ de ma diapositive, sur lesquelles on a deux grottes ornées. Hein? Ceci constitue le foyer d'art pariétal rhodanien, qui est le troisième et dernier foyer d'art pariétal français, avec 30 grottes ornées connues à ce jour, rien que sur ce périmètre-là, 35 km de gorges. Il y a une densité qui est importante, hein? Et on ne le sait pas pourquoi. Ben parce qu'il n'y a pas d'économie touristique basée sur la visite des sites préhistoriques. Par rapport à la Dordogne, où en général on y va pour sa gastronomie et son histoire, et dans son histoire il y a évidemment le Moyen-Âge, qui est quand même très prégnant sur la Dordogne, mais aussi sa préhistoire, et bien ici on a effectivement des sites qui n'ont jamais été ouverts au public. Donc personne n'a connaissance de ce patrimoine. Parce qu'elle est là aussi la problématique. Là je vais un peu plus loin, mais ça nous renvoie à pourquoi on fait la caverne, pourquoi on fait un faux, la fermeture des grottes et ces intérêts-là. On est inscrit à l'UNESCO, il faut évidemment qu'il soit accessible par tous. Et s'il ne l'est pas, eh bien, il n'est pas connu par le grand public. Donc effectivement, c'est de la pédagogie aussi. Donc, on se situe dans ce contexte-là. Au moment où on découvre la grotte Chauvet-Pont d'Arc en 1994, on n'est pas très étonné, puisqu'il y a quand même un certain nombre de grottes qui sont connues. Donc, ça ne surprend pas forcément les préhistoriens. Ce qui surprend, c'est plutôt la localisation à côté du Pont d'Arc, où il y a quand même presque 2 millions de visiteurs par an depuis les années 60. Donc, ça surprend un peu plus. Ça fait déjà quand même longtemps, on ne remet absolument pas évidemment en question la reconnaissance de l'art paléolithique, puisque ça date d'il y a un petit moment déjà, et il faut savoir qu'au niveau de l'historiographie de la préhistoire, eh bien, l'Ardèche, elle a aussi une place importante. Là, c'est un peu le cocorico ardéchois, on va dire, bien que, vous l'avez remarqué, on est sur une grotte qui est sur la commune des Guèzes, qui fait partie des gorges de l'Ardèche, mais qui est côté Gard. Tant pis. La grotte Chabot. Parce qu'en 1878, cet instituteur, Léopold Chiron, fait des fouilles dans cette grotte, comme ça se fait à l'époque, pour récupérer les objets taillés par les hommes. Hein, en général, on récupère les belles pièces, on ne récupère pas les déchets de taille ou des éclats qui ne paraissent pas forcément intéressants. On est aussi dans ces problématiques-là, on ne va pas critiquer, ça se faisait comme ça à l'époque. Mais c'est le premier, c'est ça qui est important aussi, à avoir eu l'intuition que ces hommes qui avaient taillé des silex, abandonné des objets au pied des parois de cette grotte Chabot, eh bien ils avaient fait des dessins sur les parois. Puisque vous le voyez, il y a manifestement des choses qui sont réalisées. Alors, là aussi, il n'était pas capable de déchiffrer, de déterminer l'iconographie. Ce n'est pas une critique hein, de ma part. Hein. C'est que pour l'époque, il n'était pas capable de voir ici les animaux qui étaient gravés avec des profils d'animaux. La trompe, la bosse de la tête, la bosse du dos, l'arrière-train qui s'évase, et puis arc ventral. Il s'agit en fait d'un enchevêtrement de lignes de mammouth gravées les unes sur les autres. Donc difficile à voir. Vous voyez celui-ci, l'arrière-train, la queue, la bosse du dos, la bosse de la tête, la trompe et l'arc ventral sur une autre paroi. Hein. Lui, il y a vu des oiseaux. Vous voyez ? Donc il a pris sa plume d'instituteur respecté, respectable à l'époque. Il a écrit à l'Académie de sciences de Lyon pour faire part de cette intuition. C'est à l'Académie des sciences à Lyon, ils en ont discuté avec les académiciens à Paris. Parce que effectivement, il y avait un sujet. Mais il ne faut jamais être trop précurseur, hein, on le sait bien. Donc là, c'était un peu trop tôt. Et puis, c'est tombé dans l'oubli pas très longtemps, puisque l'année suivante, là, on fait un petit bond à la fois dans la géographie et puisqu'on va en Espagne. Le marquis de Sotiola fait exactement comme Léopold Chiron. Il travaille dans une grotte qui est sur un terrain qui lui appartient. Malheureusement, ce marquis, ça fait plusieurs années qu'il fouille dans cette grotte. Mais comme il n'a pas idée que l'art préhistorique existe, il n'a jamais regardé avec attention les parois et le plafond. Et c'est sa petite fille, qui a moins de 10 ans, qui vient lui rendre visite, qui passe un après-midi avec lui, qui, les enfants c'est formidable, hein, ça n'a pas d'a priori, et puis c'est très dynamique, ça explore tous, elle regarde partout, elle éclaire partout, elle lui dit « Alta, mira, toros, toros, regarde en haut, il y a des taureaux au plafond. » Parce que elle, qu'est-ce qu'elle identifie ici, pour une petite fille espagnole ? Ben des taureaux. Bon, en fait, ce sont des bisons, hein. Donc celui-là, il est très facile à reconnaître. Chose incroyable, c'est qu'il est polychrome, hein, donc du noir, de l'oxyde de manganèse, de l'ocre, de l'oxyde de fer, et même la troisième couleur, qui est la couleur naturelle de la paroi, qui fait office de troisième couleur. Mais chose encore plus incroyable, c'est qu'ils ont dessiné des animaux sur les convexités du plafond, ce qui donne de la polychromie, mais aussi du relief, du volume aux animaux qui sont dessinés. Alors là, ça en est trop. Vous arrivez à le déceler, hein, la queue. La jambe arrière qui est repliée ici avec le sabot là. La jambe avant avec le sabot qui est presque dans la tête, le museau de l'animal avec son œil, les deux cornes, le dos et le garrot ici qui est l'équivalent de cette tache noire. Donc chaque fois qu'il y avait une convexité, ils ont dessiné des bisons, vous savez, enroulés qui se frottent pour enlever les parasites dans la terre. Alors là, le marquis de Sotiola, ça en est trop lorsqu'il déclare ça. De la couleur, l'utilisation du relief, il va passer pendant 20 ans pour un faussaire, pour avoir réalisé en fait lui-même les dessins, puisqu'en plus ça fait des années qu'il travaille dans la grotte. Il va même mourir certainement de dépression, parce qu'un marquis est traîné dans la honte en étant passé pour un faussaire, il a assez mal vécu la chose. Donc il va décéder sans avoir été réhabilité. Entre-temps, donc 1878 Chabot, 1879 Altamira, et à partir de ces époques-là, on va réellement découvrir, on revient en France, d'autres grottes qui sont très connues, qui sont la grotte de la Moutte, la grotte des Combarelles avec le renne ici hein, qui est gravé, un bison de la grotte de Font de Gomme, et surtout quelque chose qui va vraiment faire date dans l'historiographie de la préhistoire, c'est la découverte de ce fragment d'ivoire de mammouth sur lequel est gravé un mammouth. Pourquoi ça va bouleverser les conceptions de l'époque ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, comme on se base sur l'évolution des espèces en fonction de la Genèse, de la Bible, et qu'on veut bien accepter qu'on a sur Terre des éléphants, mais qui sont différents des ossements, des mammouths qu'on découvre en fouille, on se dit, il y a eu deux espèces assez proches d'éléphants, de proboscidiens, mais c'est le déluge qui a fait disparaître les mammouths, et ça a été remplacé par les éléphants. Sauf que la découverte de ce fragment de mammouth sur lequel il y a un mammouth, c'est que celui qui a dessiné le mammouth est contemporain du mammouth. Et là, on ne peut plus nier l'existence de l'homme à l'époque du mammouth. Et on va commencer à parler, vous voyez la terminologie, de la très grande antiquité de l'homme. C'est comme ça qu'on va commencer par poser les choses prudemment, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de modifier des conceptions liées à ces croyances aussi. Et finalement, au fur et à mesure des découvertes, on ne peut plus nier l'existence de l'art préhistorique fait par des hommes préhistoriques. Entre-temps, l'abbé Breuil, dit, surnommé le pape de la préhistoire, parce que la préhistoire, c'est a été quand même initié, inventé, expliqué et mis en forme, on va dire, par des instituteurs, mais aussi beaucoup d'abbés, hein, l'abbé Glory, l'abbé Bussoni, l'abbé Breuil, etc. Parce que c'est des gens qui avaient de l'instruction, qui s'intéressaient vraiment aux sciences naturelles et puis qui avaient du temps aussi à passer sur ces questions. Mais parce qu'au départ, c'était quelque chose qui les intéressait vraiment de comprendre un petit peu le monde. Et donc cet abbé Breuil, finalement, il ira, il en fera ces magnifiques dessins qui ont fait connaître énormément la grotte d'Altamira. Et les dessins sont, de l'abbé Breuil sont plus connus même que les dessins originaux. Mais c'est Émile Cartaillac qui, à l'IPH, à l'Institut de Paléontologie Humaine, qui est un des premiers préhistoriens chercheurs, on va dire, tel qu'on l'appellerait aujourd'hui, qui a vraiment fait un acte qui a marqué la reconnaissance de l'art préhistorique et qui est un article qui s'appelle « Mea culpa d'un sceptique » où il est revenu voilà, sur tous les préjugés qu'on pouvait avoir. Et à partir de là, terminé, plus personne ne remet en cause l'existence de l'art préhistorique. Donc 1902. Donc évidemment, on en revient à notre grotte Chauvet-Pont d'Arc. Découverte en 1994, personne ne remettra en cause l'existence de l'art préhistorique. Ce qui va bouleverser au moment où on découvre, et surtout au moment où on réalise les datations au carbone 14, sur ces dessins, parce qu'on a une chance incroyable, c'est que ces dessins, ils sont réalisés au charbon de bois. La plupart des dessins autres sont des noirs, sont faits à l'oxyde de manganèse. C'est un minéral, on ne sait pas dater. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen de datation. Les peintures noires faites à partir d'un minéral. On n'a aucun moyen de datation. Les peintures rouges faites avec un minéral rouge ou jaune, des oxydes de fer. Les gravures, on ne sait pas dater. On ne sait donner une datation absolue qu'à partir des dessins réalisés au charbon de bois ou au charbon d'os. Donc là, on a de la chance parce que Chauvet, c'est que ça. Donc on fait faire des datations par différents laboratoires et tous sont d'accord. Et alors là, les préhistoriens, ils tombent de leur chaise hein, parce que 36 000 ans, ben, ça a fait reculer l'origine de l'histoire de l'art quand même. Donc ça, ça bouleverse et effectivement, on est obligé d'intercaler ces peintures qui paraissent pourtant très modernes et qui renvoient conventionnellement à certaines peintures de la grotte de Lascaux. C'est pour ça qu'au début, on se disait mais oh, ça va être daté de la même époque. Et puis quand on a eu les datations, on s'est aperçu que non. Et surtout, ce qu'on connaissait de l'Aurignacien à l'époque ne renvoyait pas à quelque chose d'aussi moderne, innovant. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Donc je vous propose de voir finalement ces deux types d'art, quelles sont leurs caractéristiques pour comprendre finalement ce qui détonne vraiment à travers cette grotte Chauvet. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'art mobilier, hein, on va en avoir une répartition qui va s'étendre sur toute l'Europe. On va avoir comme support de la pierre, de l'os, de l'ivoire, des dents, mais toujours des supports très petits hein, et qui vont forcément être transportés, liés au quotidien de ces hommes-là. Et on va y voir aussi des sujets complètement différents. On sent qu'il y a une liberté qui est plus importante et on va trouver des sujets qu'on ne verra jamais dans l'art pariétal, qui sont au contraire, des lieux qui sont plutôt isolés, des lieux d'habitat. Ce sont des lieux plutôt sanctuarisés, où on va avoir quelque chose de beaucoup plus codifié et où on sent, voilà, il y a un caractère qui est beaucoup plus sacré. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Je vous montre des exemples d'objets appartenant à la catégorie d'art mobilier, mais qui sont finalement des objets qui sont des armes, hein, des objets tout à fait fonctionnels, là, des outils même. Sauf que là, ce sont même des armes, puisqu'il s'agit d'avoir un manche, un crochet, sur laquelle on va caler une sagaie, une grande flèche. L'idée, c'est d'utiliser le système du levier, hein, enfin, y penser. Le fait de doubler la longueur de votre avant-bras permet d'envoyer votre sagaie 4 fois plus loin que si vous la lanciez à bout de bras, et ça a une force de pénétration évidemment qui est beaucoup plus importante. Ça évite la chasse corps à corps. Hein, on peut être très loin, être à 40 mètres des animaux, ce qui est quand même une avancée importante. Vous avez vu que ces objets sont investis de créations artistiques, ils sont sculptés sur du bois de renne et on a des sculptures en rond de bosse. Les chasseurs aujourd'hui font quelquefois graver leurs armes avec l'animal totem. Hein. Et ben ici c'est pareil, on peut avoir un coq, un faon, un cheval, on en a de différentes sortes. Les pointes de sagaie, c'est ce qu'on met au bout de cette grande flèche qu'on appelle une sagaie. Celle-ci, vous voyez, montre des motifs géométriques, abstraits. Hein, c'est beaucoup travaillé. Donc on pense que celles-là, ce sont plutôt des objets d'apparat, certainement. Mais vous voyez, on va avoir des choses assez quand même poussées au niveau du décor. Des choses qu'on n'aura pas toujours dans l'art préhistorique, dans l'art pariétal, pardon. Alors là, on est avec des bâtons percés. Là, c'est plus compliqué. Quelquefois, on arrive à déterminer assez facilement la fonctionnalité des objets. Ce n'est pas toujours le cas. Pour des bâtons percés, on est quelquefois un peu perplexe, puisque la tracéologie, vous savez qu'aujourd'hui, on peut regarder avec des microscopes à balayage électronique et on a des moyens d'analyse assez poussés sur les traces d'usure laissées sur les objets qui nous permettent de déterminer quelles utilisations ils ont, à quoi ils ont servi. Donc, dans la littérature, en général, on dit que le bâton percé, c'est un redresseur de sagaie. Parce que dans la nature, une sagaie, il faut qu'elle fasse au moins 1,80 m, 2 m. C'est difficile de trouver un bâton aussi rectiligne. Donc, il y a un travail à faire dessus. Sauf que les traces d'usure ne sont pas toutes cohérentes avec cette utilisation de redresseur de sagaie. Donc, à savoir, certainement des objets multifonctionnels. Mais vous voyez, deux têtes de bison adossées. Hein, celui-là, il est fragmenté. Alors, celui-là, il est encore plus atypique parce qu'on a ce qui est interprété comme des végétaux. Peut-être évoquant des végétaux. Hein. Et puis là, vous avez vu ce triangle avec ici un trait au milieu. C'est interprété comme un triangle pubien hein, avec la vulve. Ce qui est assez courant dans l'art, enfin, qui est courant dans l'art préhistorique, on va dire. Et symboliquement, effectivement, sur un bâton percé, ça évoque encore plus de choses. Je vous montre celui-là de bâton percé pour vous montrer aussi de quoi ils sont capables. C'est-à-dire que on a ici le déroulé de ce qui a été gravé sur ce bâton qui fait 2 cm de diamètre. Donc, personne ne voit réellement le dessin qui est réalisé dessus. Si on le déroule, on a des sortes d'anguilles. Et des animaux marins, des poissons, des phoques. On est en Charente, bord de l'Atlantique, donc on a une thématique un peu spécifique qui est extrêmement rare dans l'art pariétal encore plus, hein, on va dire. Voilà un autre exemple. Malheureusement, vous avez compris que ces objets qui ont 13 000 ans, 15 000 ans, nous arrivent de manière très fragmentaire. Hein. Mais vous voyez, ici, on a les pattes de cet animal. Et au milieu des pattes, donc sur ce déroulé, on y voit des poissons. Donc on interprète ça comme une scène qui est finalement assez narrative, avec des poissons qui passent entre les jambes de ces cervidés. Hein, une rivière qui est en train de passer, un troupeau qui passe à gué une rivière en fait. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne verra jamais dans l'art pariétal. On a également dans l'art mobilier des os gravés. Je mets outils puisque là aussi, complètement cassés, il faut imaginer que ce sont des choses qui devaient être utilisées pour différentes choses. On devine ici un trou, hein, peut-être pour y faire passer un lien, une dragonne, on n'en sait rien. En tout cas, on a ici une scène qui est exceptionnelle avec une tête de bison, deux pattes, la colonne vertébrale, et puis, alors là, il va falloir me croire un peu sur parole, des petits hommes, n'est-ce pas, autour. Hein? très schématique hein, par rapport aux animaux, mais on reviendra là-dessus après. Mais voilà, une scène, peut-être un partage de, au retour de la chasse, en tout cas une scène qu'on n'a jamais dans l'art pariétal. Donc là, en Ardèche, on est riche en art pariétal, on est très pauvre en art mobilier, c'est les seuls fragments d'art mobilier qu'on a dans cette grotte des deux Avennes. Donc, série de biches, et puis ici, tête de cervidés, deux oiseaux adossés, des oiseaux d'eau, semble-t-il, leurs pattes, et un poisson. Donc ça vous parle pas, mais faut savoir que dans l'art, tout court, préhistorique, les cervidés, les oiseaux et les poissons sont extrêmement rares. Or, là, ils sont rassemblés sur une côte gravée. Alors, Jean Combier, peut-être que vous le connaissez, il a beaucoup travaillé sur Solutré, hein, c'est un préhistorien de votre région. C'est lui qui a trouvé ça, parce qu'il a, en 1965, fait sa thèse sur les sites préhistoriques de tout ce qui est vallée du Rhône. Et il aime à penser, vous voyez la prudence aussi que je mets, puisqu'on ne pourra jamais le prouver, mais il aime à penser que symboliquement, il s'agit de la terre, de l'air et de l'eau, des trois éléments qui sont rassemblés sur ce petit support, puisque ce sont des thématiques très rares dans l'art préhistorique. Et puis on retrouve ce genre de choses, des galets gravés. Donc là aussi, impossible de déterminer la fonction de ces objets sur lesquels il y a un enchevêtrement de dessins, les uns sur les autres, qui est très difficile à lire. On arrive à voir un animal, là on devine un rhinocéros, là aussi on devine un rhinocéros, puis un cheval qui est inversé. Voilà, si on fait des gros plans, on arrive un peu à lire. Mais retenez ça, l'enchevêtrement des figures qui rend illisible celle-ci nous montre aussi que finalement, pour eux, certainement, ce qui devait être important, c'était de faire le dessin. Pas qu'il soit vu, lisible, beau. Hein. Semble-t-il, c'est quelque chose qui est important. On le reverra dans l'art pariétal, ça aussi. Et puis, ces hommes de la préhistoire, ils nous ont laissé des figurines animales. En rond de bosse, vous voyez, ce sont des petits formats, un cheval, mammouth, félin. Ici, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en Allemagne, dans les grottes du Jura Suabe, ici la grotte de Vogeleur, qui est datée de l'Aurignacien. Et l'air de rien, mammouth, félin, des félins avec des petits croisillons, tiens, ça nous rappelle le bestiaire qui est dessiné dans la grotte Chauvet et qu'on reconnaît et qu'on identifie être propre à cette civilisation. Et puis on a des représentations féminines, alors que l'on a dénommé Vénus, puisque lorsqu'on les découvre, voilà, on est au début du 19e siècle, en plein romantisme, en pleine référence à l'Antiquité, et évidemment, Vénus, voilà, c'est la déesse de l'amour, en référence aussi à Aphrodite pour les Grecs. Puisqu'on voit bien, on perçoit bien qu'on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du symbole. On est d'accord, ce ne sont pas des portraits des femmes de l'époque. On n'a jamais de visage. Éventuellement des coiffes. Celle-ci, elle est bien coiffée, hein, avec une résille ou des nattes, hein, on ne sait pas. Celle-là, elle a une sorte de frange et elle a des trous sur la tête, comme pour y planter des plumes ou des végétaux peut-être. En tout cas, elles sont toutes réalisées dans le même modèle géométrique, on va dire, si on trace une ligne, hein, c'est deux triangles inversés ou alors un losange. Et toujours, c'est cette partie-là qui est importante. Hein, les organes sexuels qui sont quand même plutôt mis en avant, proéminents, on est sur de la courbe, des formes. Et j'ajouterai qu'il n'y a jamais de chevilles et de pieds. Elles ne sont pas cassées, contrairement à ce qu'on a l'impression. Donc on n'a ni visage, ni pied. On n'est pas dans du portrait. Et puisqu'on est des déesses mères, symbolisant la fécondité, la maternité, la vie qui perdure, etc., bah, le contact terre, de manière très concrète, il ne sert à rien. Donc on est là un peu en lévitation, puisque, j'insiste, on est du symbole. Et d'ailleurs, elles auront toutes cette même morphologie. Des têtes globuleuses, comme la poitrine, et puis les formes. Et elles ne sont jamais cassées, c'est qu'on n'a jamais fait les membres inférieurs, chevilles, pieds. Et on va jusqu'à la stylisation maximale. Là, je vous montre des figurines sculptées, mais ça va être pareil dans l'art pariétal avec un dessin qui ne va être que courbe. Hein. Regardez ce profil, on a hop, le tronc, on va dire, l'arrière train, hein, fessier, on va dire. Et c'est de ça. Donc celle-là, elle est même un peu double, hein, ou ityphalique. Hein. Donc on a l'impression qu'ici, ça sert pour la planter, la faire tenir droite. Ici, on n'a qu'un ventre, jambes, et il n'y a pas le reste, le haut du corps, et qui semblerait même être un caractère masculin, sexuel. Ça peut être vu de ces deux manières-là. Sur cette planche, je vous mets d'autres évocations. Celle-ci, c'est la dernière qui a été découverte et qui est bien aurignacienne également, puisqu'elle est découverte toujours dans ces sites du Jura Suabe, à Hollefels. Et vous voyez toujours des courbes, hein, des formes, Botero, Nikisymphale, hein, on n'a rien inventé. Hein. On n'a pas de visage, hein, j'insiste, on a simplement un système de suspension. Et les deux autres sont les cas, on va dire, exceptionnels. Parce que celle-ci, elle est très connue. Dès qu'on achète une revue sur la préhistoire, et vite, on a la dame à la capuche. Mais vous avez vu, celle-ci ne s'appelle pas Vénus. Elle s'appelle la dame à la capuche. Parce que il y a des fouilles qui ont été reprises dans ce site. Ça a évidemment fait fantasmer énormément les préhistoriens qui ont toujours rêvé de trouver le corps de ce visage. Et il n'a jamais été découvert. Et on pense en fait qu'il s'agit vraiment de quelqu'un qui a sculpté le visage, l'effigie de quelqu'un, et que c'est plus un portrait qu'une Vénus. Hein. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la dame à la capuche. Celle-ci, elle est tout à fait originale également. Elle est réalisée, vous avez vu, sur une dent de cheval, l'émail, et c'est la racine qui a été sculptée. Avec la tête, l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, et là, bras et poitrine. Alors, des fois, on me dit, c'est de Gaulle. Alors, on n'est pas toujours sûr de tout en préhistoire, mais là, je suis sûre, je peux vous assurer, c'est pas de Gaulle. Et comme du coup, je ne veux pas être seule à avoir de Gaulle, maintenant, à chaque fois que je vois cette diapo, j'en fais profiter tout le monde. Donc ça, c'est deux exceptions. On est bien d'accord, mais ça montre aussi voilà, qu'ils peuvent aller au-delà et utiliser des supports quelquefois assez atypiques, mais atypiques pour nous, finalement. Hein. Tout est question de culture. On a découvert dans l'art mobilier, toujours, des éléments de parure, des os, simplement découpés en forme de têtes d'animaux, ici en l'occurrence des chevaux. Mais vous voyez qu'on a toujours des trous. Ces objets étaient cousus certainement sur des habits, hein, anoraks, c'est un mot esquimau, hein. Donc sur les anoraks en peau de bête de ces peuples-là. Des parures, on en a une variété assez importante, et ce qui est intéressant pour nous les préhistoriens, c'est que c'est aussi quelque chose qui est fortement marqué de la culture. Donc on va avoir des formes différentes, des matériaux différents. Chacun va avoir une prédilection pour une forme et pour des matériaux. Ils vont se débrouiller à récupérer des matériaux qui ont une valeur symbolique importante. Par exemple, il y a des peuples qui n'ont pas dans leur environnement du mammouth, et ils vont pourtant se débrouiller à avoir de l'ivoire. Ou alors ils vont trouver ils vont se procurer par le troc des coquillages de l'Atlantique alors qu'ils sont plutôt sur la Méditerranée et inversement. Donc on voit déjà au paléolithique supérieur des matériaux qui sont, on va dire, très mobiles sur les territoires et qui devaient donc avoir une importance particulière pour ces civilisations. Et puis des tomatropes. Alors, des tomatropes, dans certains livres, vous les aurez dans les parures, hein, puisque ce sont des rondelles découpées, vous voyez, c'est des petites choses. Hein. Donc c'est de l'os, une omoplate d'animaux, il faut un os plat, on découpe une rondelle, on fait un trou, mais ils ont dessiné des animaux. Et sur les deux côtés, ce qui pose question, parce qu'un bouton n'a pas besoin d'être décoré sur les deux côtés. Hein. Donc, cet animal, par exemple, ici, peut être un isard, hein, une sorte de petit bouquetin, qui a les pattes repliées. De l'autre côté, ça c'est l'original, voilà le côté expérimental, il a les pattes droites. Ce qui fait que lorsqu'on passe un fil et qu'on le fait tourner, eh bien, il s'anime, il court l'animal. Cet objet a 13 000 ans. Hein ? Donc, c'est ce qu'on appelle le tomatrope. Donc, c'est un jeu d'optique hein, qu'on attribue souvent comme invention en 1700, je ne sais plus quoi, là. Donc, on s'aperçoit qu'au Paléolithique, on a quand même inventé beaucoup de choses. On va passer à l'art pariétal, puisqu'on vient de voir très rapidement ce qu'est l'art mobilier. L'art pariétal, eh bien, on va voir aussi que finalement, toutes les techniques utilisées par les artistes actuels sont déjà en place. On va avoir de la gravure, sauf que ces civilisations, je le rappelle, ben, ils n'ont toujours pas le métal. Il n'y a pas de métallurgie. Donc, dès qu'on veut graver, sculpter, il va falloir se débrouiller avec des matières, des pierres. On va faire des pics en pierre, en silex en général, démaillés là aussi en pierre. Et si on veut graver, on va utiliser des silex tranchants pour faire des incisions fines dans la roche et graver des animaux. Là, vous reconnaissez un bouquetin avec des très grandes cornes. On utilise aussi ce terme d'artiste parce que vous en conviendrez, ils ont tendance à sublimer et à magnifier les animaux. Souvent, les proportions ne sont pas réalistes, mais on reste quand même assez subjugué face aux figures et aux choix qu'ils ont réalisés. Donc là, on a un animal avec des cornes exagérées. Là, vous avez un auroch, tout le monde le voit, avec l'arrière du corps, l'oreille, les cornes. Le museau, l'avant-train, le ventre. Et ici, on est dans la grotte Chauvet avec ce mammouth qui a été dessiné au charbon, de profil, mais ses défenses sont exagérément, on est d'accord, ouvertes. Hein. Et en plus, elles ont été surgravées. Donc là, on a les deux techniques. Un mammouth, grotte de Rouffignac, site qui se visite en Dordogne, où là, on a l'impression qu'ils ont utilisé, vous voyez, le petit nodule de silex, parce que la grotte de Rouffignac, elle a une particularité, c'est que ses parois sont incluses de nodules de silex. Hein. Donc là, on a l'impression qu'ils ont dessiné le mammouth gravé, hein, avec les défenses ici, autour de, comme s'il avait un œil. Et on se dit, tiens, c'est sympathique, ils ont dessiné la toison, là. C'est de premier abord ce qu'on voit. Sauf que tous ces traits sortent largement du champ. Donc souvent aussi, il faut voilà, être prudent sur l'interprétation que nous y mettons à travers ces dessins et leur logique, hein, j'ai l'habitude de dire, ben, souvent nous dépasse et on est dans les limites des interprétations qu'on peut faire aujourd'hui. Des séries de graffitis, de choses qui sont faites avec les doigts hein, aussi, difficiles à interpréter. Alors certains, comme Jean-Claude, aiment à penser là aussi que c'est ce fameux besoin de contact entre le monde des morts, des vivants, que la paroi, elle fait voilà, la frontière entre le monde des esprits, des vivants, des morts, et que le fait de se laisser ses doigts aller sur les parois, ça participe un peu de ça. Difficile à dire, évidemment, mais pourquoi pas. On attribue là aussi souvent l'invention de la sculpture, du bas-relief, aux Grecs, aux Romains, hein, puisqu'ils nous ont laissé des chefs-d'œuvre, hein, évidemment, au niveau des temples. Mais ce qu'on oublie de dire, là aussi, c'est que finalement, au Paléolithique, ils faisaient ce genre de choses également. Donc là, ce qui équivaut à du champ levé, vous voyez, on a un profil de cheval avec les naseaux légèrement entrouverts, la bouche, on le sent souffler. Hein. Donc c'est quand même du grand art. On a également du bas-relief, mais pur. Pur. Alors là aussi, malheureusement, les dégâts sont importants puisqu'on est sur des abris. Donc là, on n'est pas dans des grottes profondes, on est dans des abris sous roche. Et le propre des abris, c'est que forcément, depuis ces milliers d'années, c'est resté ouvert aux intempéries le temps que le remplissage se fasse. Et le calcaire, vous le savez, ça n'aime ni le chaud ni le froid, ça se géliffracte. Et donc, on retrouve des sculptures très abîmées. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est sur une frise sur plus de 8 mètres avec des animaux qui ont été sculptés grandeur nature. Donc, j'insiste, là, on a retrouvé les pics et les maillets à la base de la paroi. Le propriétaire, lorsque ce site a été découvert il y a longtemps, hein, voulant bien faire, a tout bien nettoyé. Ce qu'on ne ferait jamais aujourd'hui, mais voilà, l'expérience des autres, il faut bien qu'elle serve. Hein. Et on sait aujourd'hui que ces sculptures étaient rehaussées de couleur. Non seulement c'était sculpté, mais il y avait de la couleur dessus. Hein, comme dans nos églises, les églises romanes, souvent on voit tout aujourd'hui brut, mais c'est parce que les sculptures n'ont pas été entretenues et colorées. Autre exemple, l'abri du roc sorcier, où on se retrouve avec un arc sculpté assez animé, hein, qui renvoie un petit peu à ces évocations de dessins de la grotte Chauvet, sauf que c'est plus récent. Et on y retrouve des détails assez impressionnants, hein, quand même, sculptés sur ces animaux. Alors oui, ça aussi, il faut savoir que les abris sous roche, on retrouve des morceaux au pied des parois, du coup. Et à une époque, eh bien, on les récupérait, puis on les mettait dans les musées. Donc du coup, on voit des fragments, des extraits, mais imaginez ces frises entières, comme ça devait être beau. Et là, les hommes habitaient dans les abris sous roche, alors qu'ils n'allaient pas habiter dans les grottes profondes qu'ils ont ornées et qu'ils ont dessinées. Donc il y a deux choses différentes. Et avant de passer à la diapo suivante, évidemment, ici, ça vous évoque quand même les Vénus que l'on a vues sculptées et qu'on verra aussi et que l'on a dans la grotte et qu'on a reproduit évidemment dans la caverne du Pont d'Arc. Toujours la même chose. Ce qui est important, c'est un peu cette partie du corps. Hein, et vous voyez qu'il n'y a toujours pas de pied, mais on a un ventre, un triangle pubien et une vulve qui est quand même bien marquée, reconnaissable. Ces hommes, évidemment, fréquentant les grottes profondes, eh bien, ils étaient familiers de l'argile et ils se sont pas gênés pour mettre les mains dedans et modeler. Hein. Quand on a de l'argile à profusion, à disposition. Donc, ils ont modelé des animaux, deux bisons ici adossés. On est dans la grotte du Touc-Doudoubert qui est très protégée parce que là, on est sur les sols, avec des sculptures qui ont été faites au sol. Et malheureusement, il y a des choses qui ont dû être réalisées et qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est tellement fragile, les grottes aussi étant actives. La plupart du temps, il y a des remplissages, des ennoiements. Ou, comme c'est le cas ici, on suppose qu'il s'agissait d'une sculpture de lion, d'ours, pardon, qui a été complètement abîmée. Les études ont été reprises dans cette grotte. Et c'est cette grotte, d'ailleurs, sur laquelle a été basée l'hypothèse d'un arc de chasseurs où ils allaient dans les grottes pour tirer, se livrer à des rites, pour tuer les animaux avant d'aller à la chasse. Parce que cette sculpture est remplie de trous. Et on imaginait qu'ils tiraient dessus, comme... dans le cadre d'un rite avant d'aller à la chasse. Or, lorsque aujourd'hui ceci a été réanalysé, il s'agit en fait de doigts. En moulant à l'élastomère tous les trous, les creux, il ressort des doigts avec les ongles, etc. Et il semblerait que ce soit en fait des hommes du chalcolithique et du néolithique qui soient rentrés dans la grotte et qui soient venus chercher l'argile pour fabriquer des poteries qui étaient... un besoin important à ces époques-là au néolithique. Donc vous voyez comment une théorie du début du 19e siècle avec des méthodes différentes sont infirmées parce qu'on est capable de revenir et de retravailler avec des méthodologies beaucoup plus innovantes à d'autres époques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toute fouille, on laisse toujours un témoin en pensant aux chercheurs futurs pour qu'ils puissent retravailler sur des sites. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a une méthodologie et qui va être complètement obsolète dans 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les futurs chercheurs. Donc, du dessin, évidemment, du simple dessin rouge, là, donc je l'ai dit tout à l'heure, ocre, oxyde de fer, ou du dessin au charbon de bois, là, on est dans la grotte Chauvet. ou de la peinture, c'est-à-dire qu'on va remplir de teintes plates. Vous voyez, là aussi, on a du rouge à l'intérieur, là on a du noir à l'intérieur, on est à Kosker, ou ici à Niu. Niu, c'est un exemple qui est intéressant puisque les analyses nous ont montré qu'ils avaient réalisé les peintures d'abord en faisant une esquisse au charbon de bois, comme nous on ferait un dessin au crayon papier. Et une fois qu'on est content de notre dessin, des proportions, on revient passer par-dessus, avec une vraie pâte à peinture, les œuvres, les dessins, les motifs. C'est ce qui a été fait à Niu, et il y a trois recettes différentes. Donc il y a une vraie prédétermination. Les artistes vont à l'intérieur, savent ce qu'ils veulent faire, ils dessinent et leur pâte à peinture est préparée et ils repeignent par-dessus, et avec trois recettes différentes. Donc vous voyez qu'on est dans un vrai atelier d'artistes très moderne, contemporain. Ils ont utilisé le soufflage, ce qui est très intéressant dans des grottes comme Lascaux. Certaines parois de la grotte de Lascaux sont très granuleuses, ce qui est très difficile de dessiner dessus avec un bâton d'oxyde de fer, un nodule d'oxyde de fer ou un pinceau. Que cela ne tienne, c'est une contrainte, on en fait une force. On met le pigment dans la bouche, on salive, ça fait le liant, et on pulvérise. Une série de ponctuations finissent par faire un trait où on remplit le corps de l'animal. La grotte de Pêche-Mère, que vous pouvez visiter aussi, c'est formidable, dans l'Hôte. Vous voyez ce gros bloc, il est tout plat. Donc là, ce n'était pas une contrainte de la paroi. Il n'avait aucune obligation, aucune contrainte en fait. Et ils ont choisi cette technique et ils ont réalisé ces chevaux entièrement avec cette technique par soufflage. Mais aussi, vous avez remarqué le pourquoi des chevaux, c'est qu'il y avait un bloc qui avait la forme d'une tête de cheval. Donc ils y ont fait des chevaux. Ça, c'est une caractéristique aussi de l'art préhistorique. On dit toujours que la paroi, elle est participante. Ils vont faire un cheval à cet endroit-là parce que le cheval était dans la roche. Ils vont faire ici un bouquetin parce que ceci, ils vont l'assimiler à la toison du bouquetin. Ils vont faire ici, on est dans la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, un rhinocéros. Alors attention, là c'est un petit peu bizarre parce qu'il est à la verticale, n'est-ce pas? Vous avez vu le dos, hein, le garrot, les deux oreilles, typiques, les oreilles, les rhinos de la grotte Chauvet, ils ont tous les oreilles comme ça. Tous, les gravés, les dessinés en rouge et les noirs. C'est les oreilles, nous on appelle ça en forme de guidon. Hein. La corne frontale, nasale, et ils ont utilisé une fissure naturelle. Il fallait le voir le rhino là, hein, à la verticale, et se dire, ah ben ça, oui, bien sûr, c'est un ventre de rhino. Ça, c'est classique. Hein. Mais les Inuits, ils font exactement la même chose hein, aujourd'hui. Un peu moins aujourd'hui, mais quand on va les découvrir, on va dire, c'est un peu ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire que dans l'ivoire de morse, ils vont faire tel animal. Et ils ne feront rien d'autre. Parce que quand ils ont le morceau entre les doigts, ils disent, là, il y a un phoque, je fais un phoque. Je ne vais pas faire un ours. Hein? Donc, vous voyez, ce sont des choses que ces peuples de chasseurs-cueilleurs qui ont des lectures du monde et qui ont des conceptions qui sont proches de ce qu'aujourd'hui on appelle l'animisme, se répondent en fait et dialoguent. Et vous vous souvenez, je vous ai montré tout à l'heure les galets gravés sur lesquels il y avait un enchevêtrement de figures. Eh bien, on va le retrouver ici. Lorsque vous achetez des livres sur Lascaux, il y a assez peu ces parties-là. Vous comprenez pourquoi. Hein. Vous voyez la paroi. Mais ça pose question quand même hein, sur la signification d'aller profondément dans une grotte, dessiner, repartir, sûrement revenir faire un autre dessin et à la fin pour simplement faire un dessin. Ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsqu'on regarde en détail chaque motif, il est extraordinaire. Par exemple, on va lire le plus visible. Les deux sabots, les deux pattes arrière, la croupe arrière, le dos, les bois, hein, vous voyez, l'œil, le museau, le poitrail et les deux pattes avant et le ventre. Cette figure, elle est parfaite. Ben, toutes les figures sont comme ça. Alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller au fond d'une grotte, dans l'obscurité, c'est inconfortable, ça doit faire un peu peur quand même, hein, c'est un peu impressionnant, accumuler des figures à cet endroit-là, pas ailleurs, sur cette paroi. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans la grotte des trois frères. Sans le relever, c'est invisible. Mais on a, voilà, une kyrielle d'animaux, avec des bouquetins, des bisons, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Il y a un cheval, là, hein, vous le voyez, cheval, auroch, bison, etc., cheval, là aussi. Donc, si on fait très attention et qu'on veut y passer une heure, on peut, ça, on arrivera à tout déchiffrer, mais ça va être très compliqué, mais ça veut dire que quelqu'un a passé des heures et des heures à faire le relevé avant. Et est-ce que vous avez remarqué, au milieu, il y a un motif. Souvenez-vous où il est, parce que je vous le montrerai en gros plan tout à l'heure, mais pour l'instant, on va le laisser de côté. Donc là, je vous ai montré un peu ce qu'était l'art mobilier, ce qu'était l'art pariétal de manière classique, on va dire. C'est 30 000 ans d'art préhistorique là, qu'on vient de parcourir en très peu de temps. La grotte Chauvet, au moment où on la découvre, qu'est-ce qu'elle remet en question ou qu'est-ce qu'elle a d'innovant ? Eh bien, ça va être le raclage. Effectivement, on a des parois. Vous voyez, tout ça, on voit bien à cet endroit-là. Et en fait, on peut le suivre partout. C'est complètement raclé. Ils ont enlevé sur cette paroi l'altération naturelle qui est en surface. Parce qu'ils avaient ici, manifestement, décidé de faire des dessins par le traitement de l'estompe. Sans enlever cette surface naturelle qui est plastique, impossible de dessiner au charbon de bois et d'étaler le charbon de bois pour jouer sur ces nuances et réaliser les dessins avec cette technique. Donc, on enlève tout. Du coup, c'est parfait parce qu'on se retrouve avec le blanc naturel du calcaire. Mise à nu. Et comme on a dans une main du charbon de bois et dans l'autre un silex, on arrive à dessiner et faire quelques détails pour donner un peu plus d'expressivité aux figures et détourer certaines parties. Donc raclage, estompe et détourage. Le détourage, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Nous sommes sur ce gros plan, en fait, à cet endroit-là, sur l'extrême museau là, et la bouche de ce cheval. Alors, ce qui est intéressant aussi à Chauvet, c'est qu'on a un arc complètement narratif, ce qu'on n'a pas dans l'art préhistorique en général. Vous le remarquez sur cette figure, où on se retrouve sur un déploiement sur toute cette paroi, avec une petite niche d'où sort de temps en temps une petite résurgence. Donc il y a un écoulement d'eau et qui vient ennoyer à côté la salle du crâne. Mais de part et d'autre jaillissent tous ces animaux avec ce panneau-là, un autre panneau à l'intérieur, celui-là et celui-là, comme un peu super triptyque qui se développerait. Et chaque panneau arrive à fonctionner un petit peu de manière isolément. C'est-à-dire que là, on a ces rhinos, les chevaux, les aurochs. Là, à l'intérieur, on a des chevaux et des félins. Là, on a félins et c'est pour ça qu'on appelle ça l'alcôve des félins. On a aussi le bison à plusieurs pattes. Et là, on a le panneau des cervidés, où on a des rennes, qui sont exceptionnelles dans l'art préhistorique aussi. Donc, Gilles Tosello, qui a réalisé l'étude scientifique, parce qu'il est membre de l'équipe scientifique, mais qu'il est aussi plasticien, et du coup, c'est lui qui a reproduit ces fresques noires pour la caverne du Pont d'Arc. Il a extrêmement analysé, et il a été obligé, pour comprendre la chronologie des gestes de ces orignaciens, pour pouvoir lui-même les reproduire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'ils ont d'abord réalisé ces deux rhinocéros, ensuite ils ont dessiné les aurochs, et ensuite ils ont dessiné les chevaux. Donc c'est ce cheval, qui en général attire votre regard, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est un peu certainement lui qui était dans la tête de l'artiste, le centre de la scène, on va dire, et qui est aussi beaucoup plus expressif par les détails, qui est beaucoup plus foncé, hein, et qui est plus détouré, donc il y a un contraste de noir et blanc. Et effectivement, de près, on voit bien le geste du burin pour délimiter la part du dessin au charbon et la netteté que l'on souhaite pour faire ressortir, vous voyez, le museau de cet animal. La patte de celui-ci vient par-dessus le corps du rhinocéros, qui s'emboîte presque dans la patte du rhino, et il a la ligne de ventre qui se poursuit. Mais l'artiste, il n'a pas aimé cela, alors il a repris les cornes du premier rhinocéros de manière à ce qu'elles passent par-dessus et qu'il y ait cet enchevêtrement de lignes. Et c'est pour ça que Gilles Tozzello parle de construction circulaire avec les rhinos, les aurochs qui sont là, hein, vous me suivez, le cheval, et finalement on revient à ces rhinos qui passent par-dessus. Donc exactement comme un artiste aujourd'hui conçoit et a dans sa tête, devant son tableau, d'une construction bien déterminée. Dans cette grotte, on a aussi des animaux vus de face, ce qu'on n'avait jamais dans l'art préhistorique. Et ça, c'est tout à fait différent et c'est vraiment un acte qui est très propre à ces artistes de la grotte Chauvet. Ils ont vraiment appuyé sur le regard de ces carnivores en chasse sur ce troupeau de bisons. Troupeau de bisons qui commence un peu à s'agiter, à se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer pour nous ?» Il y en a un qui arrive à s'échapper, semble-t-il. Ceux-là commencent à tourner, être de trois quarts, et ceux-là filent en bas. Ce ne sont que des têtes, vues, si vous voulez, d'en haut, avec toutes sur la même construction, museau, deux yeux, le toupet et les deux cornes. Et ils sont sur une arête un peu émoussée, mais en volume, en train de descendre. Et si vous regardez, ceux-là, ils ont un œil qui est très puissant, qui regarde ces animaux-là, ce troupeau qui part dans tous les sens. Et celui-là, il a un œil qui vous regarde. Pour ceux qui n'ont pas encore visité la caverne, quand vous viendrez, ben, vous allez être planté dans l'œil du bison. Hein? Et Gilles Tozzello qui a refait ça, l'autre jour, il me disait, j'avais jamais réfléchi, moi, en fait, je ne dessine pas, mais lui, il sait ce que c'est, évidemment. Il me dit ça, c'est le plus dur que j'ai eu à faire. Parce que à un micron près, eh ben, son regard, il n'était pas suffisamment fort. Il ne vous donnait pas l'impression de vous regarder droit dans les yeux. Ce qui fait que là, hein, c'est aussi pour ça que la Joconde, pourquoi elle est si interpellante, c'est parce qu'elle vous regarde droit dans les yeux. Et bien là, c'est pareil. Et donc ça, ils l'ont choisi, parce qu'effectivement, un spectateur face à des motifs, bon, là où je parle de la préhistoire, avec des animaux de profil, ben, il y a une distance qui se crée. C'est évident, on regarde des animaux de profil. Quand vous avez un animal qui vous regarde droit dans les yeux, n'importe quel autre tableau, vous ferez attention, mais non, s'il y a un personnage qui vous regarde droit dans les yeux, ben, c'est beaucoup plus émouvant et ça vous interpelle évidemment beaucoup plus. Et bien là, c'est ce jeu-là qui a été joué aussi, et ça, c'est très innovant. Il y a un autre bison à côté qui est de face également. Là, avant de passer à autre chose, c'est pas un singe, c'est un jeune mammouth, un bébé mammouth, vous voyez la trompe, hein. Donc il a des pattes en boule, on ne sait pas pourquoi. Conventionnellement, ils ont souvent des pattes en boule, on ne sait pas pourquoi. Il y a des effets de mouvement aussi, ce qui est quand même assez innovant. On va se retrouver, mais on l'a dans d'autres grottes quand même, mais c'est assez souvent dans la grotte Chauvet, avec ici cette ingéniosité d'avoir finalement dessiné des cornes les unes derrière les autres. On a un encorbellement de cordes, hein, vous me permettrez l'expression. Alors on est d'accord, il ne faut surtout pas passer trop longtemps là-dessus, parce que la perspective elle est inversée. Hein? Si on a un œil d'historien de l'art et de On va se dire, non, ça ne marche pas, ça. Le petit, il est devant, le grand, il est derrière, donc ça devrait être l'inverse. Mais n'empêche que si on ne se pose pas la question et qu'on est face à la scène, on se dit, oh, il y a un effet de mouvement, de troupeau, c'est très dynamique, et c'est ces dessins qui donnent cette force-là. Là aussi, des animaux à plusieurs pattes, faut imaginer, vous l'avez vu, hein, on est sur des surfaces très bosselées, torturées. Pour les peintures noires, ils les ont toutes faites en choisissant des parois torturées, morcelées, très en relief. Ce qui est l'inverse des peintures rouges de la grotte Chauvet où on est sur de la plat. Donc, ces parois, plus l'éclairage, parce qu'on tenait des torches, avec de la lumière vacillante, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, qui sont des lumières fixes, qui écrasent, ben ça donnait évidemment une autre dynamique à ces animaux et une autre vie à ces scènes. Donc cette grotte Chauvet-Pont-d'Arc, elle recèle aujourd'hui 1000 représentations. 430 figures animales, 14 espèces différentes. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais pour vous donner un ordre d'idée, les autres sites ornés, ils ont entre 5 et 6 espèces différentes. Donc là, on a une variété quand même qui est supérieure. Et surtout, on a des espèces qui sont rares, voire certaines uniques. Celles qui sont uniques, c'est... Alors, non, c'est un ours. Alors, je reviens là-dessus. Au début, on l'a appelé la hyène, mais parce qu'il n'y avait pas eu d'études, d'analyses, c'était le premier aspect... Et la première dénomination qui a été donnée. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit d'un ours des cavernes, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de, avec un profil de stop frontal bien marqué et d'exactes conventions identiques sur tous les ours des cavernes dessinés dans la grotte Chauvet. Donc on pense que c'est peut-être finalement un ours des cavernes qui sort d'hibernation. Celui qui est unique, du coup, c'est la panthère des neiges, hein, qui est dessous, puisqu'on est en période glaciaire, donc mammouth, rhinocéros laineux, lion des cavernes et panthère des neiges. On a ensuite le hibou grand-duc, qui est unique dans l'art préhistorique, qui est gravé au doigt d'ailleurs, hein, puisque là, la paroi permettait et qu'ils s'en sont accommodés. Et ici, on a bœuf musqué. Hein, c'est... Zovibos qui vivent aujourd'hui là dans l'Himalaya, donc qui émet quand même des climats très glaciaires. Donc ça, c'est pour les espèces uniques. Très rapidement, vous avez compris que cet art préhistorique, c'était souvent, on le dit, un art animalier. Alors, on est d'accord, mais c'est très réductif parce qu'il faut savoir qu'il y a trois thèmes représentés dans l'art préhistorique. Les animaux, les signes et les symboles, et les représentations humaines. Dans les animaux classiques, sur toutes les civilisations, que ce soit l'aurignacien, le gravecien, le solutréen, le magdalénien, on a le cheval. C'est, on va dire, le socle commun de tout l'art préhistorique. Je vous mets ces deux exemples aussi pour vous montrer la différence. Lorsqu'on dit tout le temps que la grotte Chauvet-Pont d'Arc, elle est exceptionnellement bien conservée. Effectivement, regardez les dessins ici de ce cheval qui est à moitié, effacé. Et là, où on voit aussi où il commence un peu à être usé. Hein. Fond de gomme est ouvert depuis sa découverte, en 1906, je crois. Donc chaque année, le ministère de la Culture dit « on va fermer, on va fermer, on va fermer ». C'est jamais fermé, mais ils réduisent le plus possible les nombres de visiteurs. Mais effectivement, on voit que les grottes qui sont visitées subissent des détériorations. Donc très rapidement, les animaux les plus dessinés, là c'est un corpus, je vais très vite, les chevaux, les bisons, les aurochs ensuite, hein, très connus, la vache sautante de Lascaux, les bouquetins. Donc on peut en avoir, vous voyez, sculpté sur les plafonds, dessiné, gravé. Alors en Ardèche, des bouquetins, on en avait beaucoup, puisque le bouquetin, ce qu'il aime, c'est le rocher. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, là aussi, c'est pas le froid, c'est un animal qui aime comme environnement le rocher. Donc aujourd'hui, c'est des zones refuges dans lesquelles ils sont. Hein. C'est parce qu'à force qu'on les élimine et qu'on les fasse grimper dans les montagnes et dans le froid, on a l'impression que c'est un animal du froid et des montagnes, mais C'est pas le cas. Donc dans nos grottes ardéchoises, on en a beaucoup de gravés et puis ils en ont mangé, chassé évidemment. Le mammouth, qui est pourtant l'animal, on va dire, emblématique dans la tête de tout le monde, c'est le mammouth qui est un animal propre à la préhistoire, et bien pourtant il est assez peu dessiné. Il faut savoir que dans la grotte Chauvet-Pont-d'Arc, on a 80 mammouths dessinés, 80 félins aussi, et 72 rhinocéros. Alors, on a, Arcis-sur-Cure, c'est votre région, c'est un peu plus au nord quand même, mais c'est votre région. Vous voyez ce type de mammouth, alors on a des choses diverses et variées au niveau des typologies, on va dire. La baume latrone, encore plus étrange, hein, c'est vers chez nous donc. Mais ce qui est intéressant, Baume la Trombe, au passage, c'est que on est avec des mammouths et des félins. Cette grotte, elle était impossible à dater parce que c'est de l'argile qui a été récupérée et ils ont fait des dessins comme ça, on le voit, hein, que c'est fait à la main ou une sorte de badigeon. Donc c'est de l'argile, impossible à dater. Mais ça intriguait énormément les chercheurs de la grotte Chauvet parce que les gorges du Gardon, pour un Cro-Magnon, hein, Aurignacien, peintre de la grotte Chauvet, c'est pas loin en fait. On sait que ces hommes-là, ils ont un rayon d'occupation de 100 mètres à partir de 100 km pardon, à partir de leur habitat. Donc aller vers les gorges du Gardon, c'est pas très loin. Et ce qui les intriguait, c'était la présence de lions, de mammouths. Et effectivement, ils ont pu dater des charbons sur des sols bien attestés et équivalents aux peintres. On est sur de l'aurignacien. Donc on sait aujourd'hui que le bestiaire aurignacien, il est bien avec des animaux féroces, puissants, mammouth, félin, ours, rhinocéros. Donc parmi ce corpus d'animaux dessinés, les cervidés sont très très peu dessinés. C'est l'animal qu'ils chassaient le plus, qui était pourvoyeur de tout pour ces sapiens et ces chasseurs de la préhistoire, hein, les rennes. Et bien pourtant, c'est l'animal le moins dessiné, ce qui prouve bien que ce n'est pas les animaux chassés, ce n'est pas les reliquats de leur menu qui sont allés inscrire sur les parois des cavernes. Pas aussi simple que ça. Et les animaux extrêmement rares, ça va être le félin, donc comme je le disais, il y en a 80 dans la grotte Chauvet, les rhinocéros, il y en a 80 dans la grotte Chauvet. Ça, ce n'est pas un travail d'artiste, ça? Bon, un petit peu exagéré pour la corne, même si certains pouvaient avoir des cornes assez développées, mais là, c'est tout le... Un rhinocéros, c'est pas comme ça. Mais voilà, quand on est là devant, on se dit, ouf, c'est beau, c'est bien fait, c'est... ça évoque beaucoup de choses, et c'est pourtant loin d'être réaliste, mais c'est ça, être artiste. Hein. Et puis, des ours, des cavernes, il y en a... 17 dessinés à ce jour, rien que dans la grotte Chauvet, là aussi c'est plus que dans tout l'art préhistorique. Mais sont très rares ailleurs. Et puis là je vous montre l'exception, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment les règles évidemment. Vous vous souvenez, on avait découvert en 1991 la grotte Kosker. Les années 90, c'est une bonne décennie. On découvre Ötzi, la momie des glaces, Kosker. On parle beaucoup de la fosse Coa au Portugal, et puis en 94, on découvre Chauvet. Donc, c'était de bonnes années pour nous. Aujourd'hui, cette grotte Kosker qui est à Marseille, elle est 120 mètres sous l'eau. Donc aujourd'hui, on ne peut plus y aller, sauf si on est un plongeur de bon niveau, de très bon niveau. Mais à l'époque, des artistes qui sont allés à l'intérieur, c'était des gravesiens, aux alentours de 28 000 ans, ils y allaient de pied ferme, on va dire. Donc aujourd'hui, elle est demi-ennoyée. S'il y a un site archéologique qui est en voie d'être anéanti avec le réchauffement climatique, c'est bien un grand Kosker, hein, parce que déjà depuis 1991, on voit que le niveau a monté et qu'il y a des dessins et des choses qui commencent encore plus à disparaître. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'évidemment, devant cette plaine, on avait des bisons, des chevaux, classiques, mais ils ont aussi dessiné des pingouins, des phoques, qui étaient des animaux tout à fait communs dans la Méditerranée à cette époque-là, puisque là aussi, aujourd'hui, la pollution et l'extermination de cette faune et le fait d'être passé dans des aires un peu plus chaudes ont anéanti cette faune-là. Et puis, je vous disais qu'il y avait donc beaucoup d'animaux. beaucoup de signes et de symboles et très peu du même. Et alors là, en général, on est assez surpris quand même de la manière de dessiner ces représentations humaines. Vous voyez ici le dos, les deux, une jambe, deux jambes, le ventre, on va dire, et puis là, je ne m'aventurerai pas à décrire, c'est compliqué. On peut relever des traits. Est-ce que ce sont des sagas? Est-ce que cet homme est blessé? Difficile à dire. En tout cas, on a d'autres illustrations de ce type de corps d'homme. Celui-là, peut-être il est plus facile à interpréter. Il y a des jambes ici, alors je ne vois pas tout, je suis deux billets moi. Un ventre, un sexe ici en érection, semble-t-il. Deux bras et la tête, et il n'est pas très rassuré, il part en courant en fait, semble-t-il. Il y a un animal qui le course derrière. Vous avez remarqué cette posture ? Toujours un peu fléchie, pourquoi ? On ne sait pas. Ici, vous avez un animal qui ressemble à un écureuil, mais on va dire que c'est un ours. Hein ? Et il y a deux hommes ici. Alors là aussi, ils sont très schématiques, hein. C'est étonnant parce qu'on est avec un art qui peut être très naturaliste, très réaliste pour les animaux, mais alors pour les hommes, on ne sait pas pourquoi ils dessinent comme ça. Hein. Donc un corps, peut-être des bras, et là, vous voyez, deux bras, un corps, il y a deux jambes. Donc ils sont malmenés par un ours. Là, on a un bison qui est en train de, semble-t-il, foncer dans un personnage, nous sommes à Lascaux, c'est la scène du puits de Lascaux, avec ce personnage qui part à la renverse. Ce bison, il a les entrailles qui sont, semble-t-il, en train de sortir. Est-ce qu'il a été blessé par ce chasseur parce que là, il y a peut-être un propulseur et là, une flèche? On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais vous voyez comment il le représente? Une tête d'oiseau, hein, comme son propulseur, si c'est un propulseur. Un, deux, trois, quatre doigts. Les pieds, des virgules. Là aussi, un sexe dessiné en virgule, donc on suppose que c'est un homme. C'est étonnant parce qu'il a cinq doigts. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment une différence de représentation entre hommes et animaux. Et surtout, voilà, cette schématisation et le fait de ne jamais représenter l'homme. Pourquoi pas vainqueur sur l'animal? C'était quand même des grands chasseurs qui chassaient des animaux qui étaient très compliqués à chasser quand même. Un cheval, les bisons, les aurochs, les bouquetins, sangliers, etc. C'est pas simple. Et bien pourtant, il s'est toujours représenté en mauvaise posture face à l'animal. Il n'a jamais gagné face à l'animal. Et on a ce genre de représentation, on appelle ça des anthropomorphes aussi. Hein, des êtres composites, vous le reconnaissez? On l'a vu tout à l'heure au milieu. Il y a deux, alors ce que certains appellent sorciers, prêtres, chamans. Hein. En tout cas, ce sont toujours ces représentations du bas du corps qui rappellent l'homme, mais toujours le haut du corps avec un masque et un nombre quand même assez important d'attributs qui nous renvoient à l'animal. Donc, voilà, c'est des choses qui existent. C'est certainement la personne qui fait office de médiateur dans la tribu, avec ce monde des esprits, des morts, etc., et qui est grimé les attributs des animaux qui étaient importants, certainement, pour eux. Et dans les représentations féminines, donc on en a vu déjà un certain nombre à travers l'art mobilier, mais vous voyez que dans l'art pariétal, on va en trouver des sculptés. Alors celle-là, elle est unique parce qu'elle a le seul objet de la préhistoire qui a été représenté, qui est une corne. Alors, de quoi? On ne sait pas. Mais vous y retrouvez la même convention, pas de visage et pas de pied. Là, toujours pareil, pas de visage, pas de pied. Là, pas de pied, et on est sur une sorte de profil. Si je vous montre tout ça, là, si je vous les avais montrés dès le départ en vous disant il faut me croire que ce sont des représentations féminines, c'est plus dur. Hein. Mais lorsqu'on voit les sculptures et tout le concept en fait, qu'il y a derrière, on comprend un peu mieux. Je vous mets celle-là qui est la grotte d'Arcy-sur-Cure aussi, puisqu'on est pas très loin, et dans cette grotte, il y a à la fois de l'aurignacien, il y a du gravecien aussi. Et vous la voyez, la Vénus ? Et l'utilisation du relief naturel, hein, comme il faisait pour les animaux. Là, on a, semble-t-il, la tête, la poitrine et les deux jambes. Ce n'est que concrétion, en fait. Et ça renvoie, évidemment, au triangle pubien, aux vulves de la grotte Chauvet, avec celle-ci qui a quand même là deux jambes et le triangle pubien. Alors, Jean-Claude, lui, il y voit un homme bison accolé à la Vénus. Mais ils ne sont pas tous d'accord, les scientifiques qui travaillent dans la grotte Chauvet. Donc pour l'instant, je préfère dire c'est l'interprétation de Jean-Claude, parce que, par exemple, Gilles Tozzello, qui a dû reproduire ses dessins et qui a été obligé de comprendre la chronologie de, du trait par le dessus, un autre, etc., lui, aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec ça. Les traits, pour lui, ne se recoupent pas. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette paroi de la salle du fond n'a aujourd'hui pas été étudiée. Parce que les scientifiques aujourd'hui n'accèdent pas au pied de la paroi. Donc Gilles Tozzello a bien pu étudier la scène des chevaux qui est avant. Hein, ces scènes qui sont à côté des lions. Parce que là, cette Vénus, c'est ça aussi qui est important au niveau de la symbolique et qu'il faut voir dans la globalité de la grotte, c'est que cette scène, même s'il n'y avait pas, et même s'il n'y a pas un homme bison accolé à la Vénus, elle est sur un pendant rocheux, au fond de la paroi, au fond de la caverne, pardon, ou de la grotte, hein, au fond de la grotte. Donc on est au bout. Donc la présence d'une Vénus symboliquement, voilà, au fin fond de la profondeur la plus éloignée de l'entrée de la cavité, symboliquement, ça doit être aussi quelque chose qui devait être important, parce que tous les triangles pubiens qui sont dessinés dans la grotte, ils sont au fond de la grotte. Et c'est des choses qu'on connaît, parce que à l'Aurignacien, on avait des blocs entiers couverts de triangles pubiens. Donc c'est quelque chose qui revient toujours à cette période-là aussi. Et puis, des signes et des symboles, à la fois qui sont entre les représentations humaines et le signe et le symbole, c'est ce qu'on va appeler les mains positives ou négatives. Hein, donc on enduit le colorant, sa main de colorant, on la pose contre la paroi, ou on n'enduit pas la main de colorant, mais on met le colorant dans la bouche et on pulvérise autour. Là aussi, dans la littérature, on lit beaucoup de choses qui sont quelquefois erronées, notamment le fait de... Vous voyez ici, il manque tous les doigts. Donc, à une époque, on dit qu'il se mutilait. Mais imaginez bien, quelqu'un va s'auto-mutiler et se couper tous les doigts. Donc, ça aussi, effectivement, au niveau ethnologique, c'est des choses que l'on connaît. Mais ils vont se couper... la phalange supérieure, là, du petit doigt, parce qu'en fait, dans l'appréhension, dans l'utilisation, le portage des enfants ou de n'importe quoi, ça n'a pas d'incidence. Jamais personne aujourd'hui n'aurait idée de se mutiler entièrement les doigts. Il suffit tout simplement, en fait, de manière expérimentale, de fermer. Et du coup, vous n'avez plus de doigts. De la même manière qu'on peut en fermer juste un ou deux. Et donc ça, on le retrouve. On sait aujourd'hui que, par exemple, les Bushman de Kalahari, ils ont un langage par signe lorsqu'ils vont à la chasse pour éviter de crier. Et en fonction du nombre de doigts qui replient ou duquel, ben, ils ont un langage signé. Hein? Donc aujourd'hui, on penche plutôt pour cela. On a ce genre de choses aussi, donc des points, des ponctuations, des choses, ou des choses très compliquées, enfin plus compliquées. Bon, nous, les préhistoriens, on a des noms compliqués aussi, donc ça, on l'appelait un tectiforme en forme de toit, hein. Un aviforme en forme d'oiseau. Ici, c'est le bilobé qui est propre à la grotte Chauvet. On ne sait pas ce que c'est, hein, mais voilà, on a ces formes-là, et on ne les connaît pas ailleurs. Et il faut savoir quand même repérer que finalement, un signe est signifiant, évidemment. Hein. Nous, aujourd'hui, on est encore entouré de signes qui ont du sens, mais si on ne nous initie pas à ça, à leur compréhension, à leur lecture, on est embêté, hein, c'est le cas du code de la route, et encore, en nous initiant, souvent, on oublie. Hein. Mais il faut bien se dire que ça, c'était pareil. Qu'est-ce que ça veut dire une ponctuation? Qu'est-ce que ça veut dire cette série de ponctuations? Qu'est-ce que ça voulait dire ces rectangles poisonnés entre deux bouquetins, ce rectangle avec des excroissances? Souvent, on n'y fait pas attention parce que notre regard va se dire quoi face à ça? Oh, les deux jolis bouquetins et le petit cheval rouge. Et on va complètement occulter ça parce qu'en plus, comme consciemment on ne le comprend pas et qu'on croit comprendre les deux bouquetins, mais peut-être que les deux bouquetins avaient une autre signification pour eux, hein, que ce n'était pas bêtement deux illustrations de bouquetins. Donc voilà, il faut bien se dire qu'un signe est signifiant. Malheureusement, quelle signification? Là, on est une fois de plus dans la limite de ce qu'on peut avancer aujourd'hui. Le champollion de la préhistoire, hein, j'ai l'habitude de dire, eh bien, on ne l'a pas encore et on ne l'aura peut-être jamais. Hein. Lui, il est arrivé à déchiffrer les hiéroglyphes parce que sur la pierre de Rosette, il y avait un même texte écrit en trois langues, et c'est la comparaison des deux qui étaient connus qui lui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Nous, ici, la grammaire des Cro-Magnons nous est peut-être perdue à jamais. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'il y a des milliers de signes et que ça fait partie de ce corpus. Donc il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de signes et de symboles, et très peu de représentations humaines, et elles sont très schématiques. Ça, c'est la caractéristique de l'art préhistorique. Et je finis là-dessus, parce que je suis obligée quand même de vous dire, je vous ai montré beaucoup de choses qui sont dans les grottes profondes, au paléolithique, mais on a aussi un art de plein air, alors qui est beaucoup plus réduit, hein, mais il existe. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, dans les années, en 1991, il y a eu un soulèvement citoyen, on va dire, pour une fois, avec des gens du monde entier qui ont milité de manière à ce que cette vallée de la fosse Coa ne soit pas ennoyée. Le gouvernement portugais avait prévu de faire un barrage électrique et donc d'ennoyer entièrement la vallée. Le problème, c'est que c'est une vallée qui est remplie de roches qui ont été gravées. Alors, il y avait certains qui disaient ce sont des animaux qui ont été dessinés, gravés au paléolithique. D'autres qui disaient, ben non, c'est néolithique, alors c'est pas grave, on en a plein ailleurs, en Afrique notamment, donc c'est pas grave, on préfère l'électricité que le patrimoine. Bon, ça peut s'entendre, hein, parce que peut-être que le Portugais à côté aurait préféré avoir de l'électricité plutôt qu'un site préhistorique. Mais en tout cas, voilà, ça a posé beaucoup de questions. Parce que c'est tellement rare que c'était quand même, de manière éthique, embêtant d'anéantir un site d'art rupestre, d'art qui est fait sur les rochers, hein, parce que pariétal, c'est l'art qui est sur les parois, art rupestre, c'est l'art qui est fait sur les rochers à ciel ouvert, normalement. On dit comme ça. Et il fallait le prouver que c'était du paléo et pas du néo. Alors, les préhistoriens disaient, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est évident, regardez cette iconographie. On est avec des animaux qui sont typiques du paléolithique, avec des bouquetins. Vous voyez ici une tête, puis le dos, la queue, l'arrière-train, là il y a une patte, le ventre et une autre patte. Mais il y a une autre tête ici, et c'est la même corne qui lie les deux têtes, une sorte de Janus, là, comme ça. Là on a un auroch, comme je vous ai montré, hein, l'iconographie elle n'est pas perturbante, en fait, si c'est du paléolithique, pardon. Et puis, sur d'autres roches, vous avez, vous voyez, des chevaux, des bouquetins. Il y en a un autre là, de bouquetins, et un cheval ici. Sauf que les gravures, on ne peut pas dater, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a des travaux de recherche qui ont été effectués pour trouver en stratigraphie des roches gravées, essayer d'analyser les outils abandonnés au pied de ces roches. Ça a pu être attesté. C'est gravecien et c'est donc inscrit à l'UNESCO aussi. Donc on a très peu de vestiges de sanctuarisation, hein, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. Vous avez vu la vallée de l'Ardèche, c'est sanctuarisé, il y a beaucoup de sites ornés. Pourquoi il n'y en a pas sur la vallée de la Sèze, mystère. La vallée de la Vézère, il y a beaucoup de sites. Sur la Dordogne, il y en a peu. Donc vous voyez, il y a vraiment des vallées qui sont sanctuaires au même titre que ces sites, de manière isolée, sont sanctuarisés aussi. Donc ça existe, même si on en a très peu. Pour conclure, vous avez compris qu'on est avec un art paléolithique et des thèmes choisis. On n'a jamais de fleurs, tout ce qui est flore, tout ce qui est astre, scène de vie, habitat. Il n'y a rien de tout ça. Rien, rien, rien. Ce qui est étonnant, c'est que ça va perdurer pendant 30 000 ans. C'est quand même énorme. Énorme, énorme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très fort, qui fait qu'on est sur des populations qui ont une même tradition, qui leur dicte quoi faire. Hein? Et on ne transgresse pas ces règles, parce que dans ces lieux, on est avec quelque chose qui est de l'ordre du sacré. De la même manière, je prends toujours comme exemple, dans les églises, les mosquées, les temples, les synagogues, j'ai oublié personne, on a une iconographie qui est propre à ces lieux et à la religiosité de ce qu'on y met dedans ou pas. Voilà, il y a vie de Jésus et des apôtres pour les églises, c'est surtout pas de figuratif pour les mosquées, et il n'y a personne qui s'amuse à déroger ces règles-là. Donc c'est très codifié, ce qui fait que ça perdure. Alors pour l'instant, non, c'est 2000 ans. Mais là, ça a perduré 30 000 ans parce qu'on est avec une même culture et que c'est quelque chose qui est très fort. La grotte Chauvet, au moment où on la découvre, eh bien, elle vient renforcer cette idée-là, hein, l'interprétation de cet art. En revanche, ce qu'elle apporte comme regard nouveau, c'est quand même au niveau de la chronologie. Ça, aujourd'hui, permet de reculer quand même l'origine de l'histoire de l'art. Hein, on a fait encore un bond en arrière. Au niveau des thématiques aussi, on sait aujourd'hui que les Aurignaciens, ils ont un bestiaire particulier, que les Magdoliniens en ont un autre. Donc ça aussi, c'est quand même un apport intéressant. Et puis, c'est au niveau des techniques. Hein, finalement, on a des choses très élaborées, très innovantes, tout de suite. C'est pour ces raisons-là aussi que ce lieu, à lui tout seul, il va être inscrit sur la liste du patrimoine mondial pour sa valeur universelle et qui va être inscrit en tant que premier grand chef-d'œuvre de l'humanité. Aujourd'hui, à l'UNESCO, dans la catégorie des biens culturels, il y a, je crois, à ce jour, 1000 sites inscrits dans le monde dans la catégorie des biens culturels. C'est le site le plus ancien, avec ces dessins qui ont 36 000 ans. Donc ce qu'il faut percevoir aussi de cette grotte Chauvet, de sa place, c'est que voilà, elle a ces choses qui sont un petit peu différentes, mais elles viennent renforcer l'idée qu'ils vont dans les grottes profondes, pour finalement illustrer, ce sont les premiers mythes qui sont illustrés sur les parois. Hein. Et malheureusement, là où on doit aussi un peu rester humble, c'est qu'on l'interprète avec notre culture et que finalement, il nous manque les récits qui vont avec. Parce que là, on n'a que les dessins, mais tout le récit qui allait là-dessus. Nous, aujourd'hui, on dit que c'est des lions qui chassent des bisons. Parce que ça a l'air de ça. Mais Jean-Claude, qui a parcouru le monde entier, en allant voir justement les peuples qui font encore de l'art rupestre, eh bien, souvent, il dit que face aux représentations, lui, d'un premier regard comme ça, il pouvait interpréter. Et quand il avait la personne qui arrivait et qui lui expliquait dans sa culture quelle était la signification de ce personnage en train de faire ça, à côté de ça, etc., qu'il expliquait toute la symbolique, en général, il était à des années-lumière, parce que c'est pas sa culture, et parce qu'il n'était pas initié, et parce que les codes, il ne les avait pas. Donc il faut peut-être aussi regarder avec prudence et pas aller trop au-delà, on va dire, de cette conjoncture aujourd'hui, de dire effectivement c'est des lieux sacrés puisqu'ils ne vivaient pas dedans, on n'a pas de vestiges de la vie quotidienne, qu'on retrouve ce qu'ils ont laissé sur les parois, semble-t-il c'est les premiers mythes, Gilles Tozzello, il a une expression qui est assez intéressante. Il dit, on croit face aux peintures là, de la grotte Chauvet que ce sont des histoires d'animaux qui nous sont racontées. Mais en fait, c'est des histoires d'hommes. Voilà. Je vous remercie. Je réponds aux questions.
Ça vous a plu? Oh, je vous l'avais dit. Hein? Donc, si ça peut vous donner envie d'aller visiter la réplique, donc allez-y, bien évidemment. Donc, tous ceux qui n'étaient pas dans le voyage UTB, bien, ont eu tort. Donc, on n'en fera pas un tous les ans, mais vous pouvez y aller seul, en balade. C'est sûr. Facile à trouver. Voilà.
On est ouvert tous les jours, toute l'année.
Voilà, ouvert tous les jours et toute l'année. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bonnès.
Merci.